Bonsoir. Au moins 8 personnes sont mortes et plusieurs habitations inondées ainsi que des routes. Certaines érosions ont également progressé. Sur le bilan des pluies qui se sont abattues ce week-end à Kinshasa, le quartier Ndano, par exemple, dans la commune de Limété, s'est vidé de sa population. Depuis les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville, ces pluies ont fait des dégâts dans plusieurs autres quartiers voisins. Des rivières et canalisations ont bouché, notamment à Ngaliema, Yiringiri, Bumbu et Kalamu. Ce même phénomène est observé dans plusieurs villes de la RDC. L'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite a émis un bulletin alertant sur des précipitations à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Congo central, Kwilu, Tchouapa, Équateur, Lualaba et Haut-Katanga. Quelle est souffert de cette situation? Que faut-il pour limiter les conséquences de ces pluies? Nous en parlons ce soir avec Augustin Tagui Sabo, chef des divisions du Centre météorologique national et responsable de la prévision du temps à la Metelsat. Monsieur Tagui Sabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Guy Kajemba aussi avec nous dans ce studio. Il est expert en changement climatique expert en changement climatique et des raids, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Monsieur Kajemba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Au téléphone, Maurice Matanda, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Bonsoir, vous êtes directeur des inventaires et aménagements forestiers au ministère de l'Environnement du gouvernement central. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, sur Channel 572, sur YesTV, Canal 867. Vous pouvez aussi suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Les pluies se sont succédées à Kinshasa depuis le week-end et cela a entraîné des conséquences. Au moins 8 personnes sont mortes. Plusieurs habitations sont encore inondées ainsi que des routes. Certaines érosions ont également progressé. On va suivre le point dans ce reportage de Babel Pongo et Alpha Poissa.
Une femme et ses 7 enfants sont décédés pendant la pluie la nuit de samedi à dimanche au quartier Cuba, à la cité des anciens combattants en Ngaliema. Un mur mitoyen a cédé sous la pression de l'eau. La chute d'un poteau électrique a tué un moutard ce lundi vers Efobank à Bibwa dans Sélé. Aujourd'hui, plusieurs Quinois se sont absentés des services ou sont arrivés en retard, conséquence des inondations. C'est le cas à Massina, le quartier Papela, Matadi, Fumutsuka et Lubamba, car aussi vers Kampem à Mongafula, de nombreux quartiers de Ngiringiri vers la direction Khartoum, du quartier Louboudia. Limbao, des maisons le long de l'avenue Mamayemo en Ngaliema, pour ne citer que cela. Témoignage.
Je ne peux plus vaguer normalement à mes occupations parce que les rues sont inondées, il y a de la boue partout, vraiment des sales aberrants.
Autre site inondé, la station-service de Kapela à Yolo dans la commune de Kalamu. À la frontière entre Sélé et Maluku, le sable qui avait envahi le boulevard Lumumba vers Ngandamosolo est en train d'être évacué, mais cela demande plus de moyens, assurent les deux bourgmestres. Du côté des sites érosifs, certains ont progressé vers Boadi, Ngomba Kikusa, Manenga et au quartier Congo, nous dit le bourgmestre de Ngaliema. Par contre, à Kojelo, à Mongafula, des habitants nous apprennent que cette dernière pluie, bien que forte, n'a pas causé de dégâts. La tête d'érosion qui menaçait a été stabilisée à l'aide des sacs de sable.
Merci Babel pour ce reportage, Maurice Matanda. Je rappelle que vous êtes directeur des inventaires et aménagements forestiers au ministère de l'Environnement et du gouvernement central. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations inondées, plusieurs dégâts matériels à travers la ville-province de Kinshasa. Dû aux pluies qui se sont abattues sur la ville le week-end dernier. Comment on peut expliquer cette situation? Il y a même tout un quartier entier qui s'est vu vidé de sa population. Comment on peut expliquer cette situation?
Bon, merci beaucoup, madame. Je commencerai par remercier la radio Okapi et saluer aussi les auditeurs et mes co-débatteurs de tout à l'heure. Vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais madame, je peux dire que la pluie est un phénomène tout à fait naturel. Comme tout ce qui est naturel, nous, comme humains, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas l'empêcher, nous ne pouvons pas changer son intensité ou faire quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est gérer les conséquences ou les limiter ou atténuer les conséquences de ces pluies-là. Et vous voyez vous-même que depuis nos ancêtres, les gens se sont organisés et se sont protégés contre la pluie, par exemple en construisant des maisons, des abris, ou en se servant des imperméables pour se protéger contre les précipitations. Alors, vous voyez vous-même que comme il y a des quantités d'eau qui tombent sur la terre, ils ont prévu aussi de construire des caniveaux, des égouts, ils ont prévu des avaloirs, des exutoires vers des cours d'eau ou d'autres lieux plus bas, aménagés pour ça. On a aussi planifié l'occupation de l'espace. C'est-à-dire, on s'est dit, cet espace est prévu pour habiter, et ici, non, on interdit à l'habitation. Et à d'autres endroits, il faut habiter moyennant des conditions ou moyennant des dispositions à prendre. On a aussi établi des normes ou bien, si vous voulez, des règles pour occuper, non seulement pour occuper l'espace, mais aussi pour le comportement humain, notre comportement. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on peut faire individuellement ou ce qu'on peut faire aussi collectivement pour se loger, pour manger, pour évacuer nos déchets. Mais vous allez voir que dans notre pays, nous ne voulons pas, nous ne respectons pas tout ça. Les règles, les consignes qu'on nous donne, même si nous avons un autre collègue de Métessat, vous allez voir qu'il donne des consignes et vous verrez qui va respecter ces consignes. Nos déchets.
Vous rejetez un peu donc la responsabilité sur la population qui ne respecte pas les normes. Vous rejetez donc la population, la responsabilité sur la population.
Il n'y a pas de la population, madame. Parce que vous allez voir que nous ne sanctionnons pas. Ceux qui font du mal, qui ne respectent pas les règles, ne sont pas sanctionnés. On va se complaire avec... on préfère la corruption, comme si la nature aussi, nous allons la corrompre, alors que non, il faut qu'on commence à respecter nos règles. Vous voyez? Donc, oui, quand on dit il ne faut pas construire ici, et quelqu'un de la population va y construire, mais il faut qu'il soit sanctionné.
Mais qui donne ces espaces à la population?
Oui, mais c'est justement ce que j'ai dit.
Ce sont les services de l'État, les services.
La faute est partagée. Et la faute est partagée. Parce que vous allez voir, madame, qu'au lieu, par exemple, de sanctionner, on se complaît à dire « Ah, on n'a pas sensibilisé, on a... » Non. Quelles sanctions nous accordons? Ceux qui jettent les déchets dans nos caniveaux. Parce que celui qui avait construit la ville avait quand même construit les caniveaux, madame. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Quand on balaye, soi-disant, on fait les salongo, on jette où? Il suffit d'observer quand il pleut. Il y a des gens qui jettent des déchets dans les caniveaux. Si vous parlez, vous voulez expliquer à une personne, il vous dit qu'est-ce que vous croyez, c'est vous qui allez développer ce pays ou qui allez arranger ce pays. Et vous voyez vous-même, même si vous allez vous plaindre de ce qui. Et donc, c'est ce qui fait que nous sommes limités. Et il y a un problème, une question de fond. Nous devons maintenant prendre conscience, nous tous, que quand il faut respecter les règles, nous devons les respecter. Et quand il faut sanctionner, nous devons sanctionner. Quand il faut sensibiliser, oui, bien sûr, il faut sensibiliser. Parce que, madame, vous allez voir, il y a dans notre pays, si nous avons une culture des interdits seulement. Je vais vous donner un exemple. Osumba Awate, ça veut dire n'irine pas ici. Osumba Awate, ne faut pas assier ici. Ne jetez pas des immondices ici. Ndago yao tegate, le pain yao tegate. La passée n'est pas à vendre. Mais on ne nous dit pas, ne faites pas caca ici, faites ici. Ne jetez pas des immondices ici, jetez ici.
Mais ça, c'est le travail de l'État, justement. Ne faites pas à vendre. Ça, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui doit dire à sa population où jeter ses immondices, ou construire ou ne pas construire, mais tant que l'État est absent, ne dit rien à la population, bon, elle se prend en charge.
Qui vote les... Je ne peux pas vous poser des questions, madame, mais qui vote les agents de l'État là? Non, pas les agents de l'État, mais les autorités. Qui vote? C'est la population. Alors, à ce moment-là, vous allez dire qu'on a donné le pouvoir à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. On va dire qui est responsable.
Et donc, c'est la population qui ne fait pas le bon choix.
Ah, mais c'est pourquoi je vous disais que c'est partagé.
Merci. Augustin Taguisabo, vous êtes chef de division du Centre météorologique national et responsable de la prévision du temps à la Metelsat. Vous avez annoncé qu'on aura des pluies abondantes, hein, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans certaines provinces de la République, et que le gouvernement devrait prendre des précautions.
Oui, madame, effectivement, la Metelsat avait informé le public ainsi que le gouvernement qu'il y aura des précipitations excédentaires au mois d'avril. Parce que cette précipitation a été précédée par une vague de chaleur. Et nous avons connu tous, il y a eu des plaies, il y a eu des lamentations. Et nous avons signifié que cette vague de chaleur risquerait d'accumuler la chaleur dans l'atmosphère qui favoriserait le développement des particules d'air et en fait de donner des masses nuageuses qui pourra nous donner des précipitations abondantes. Et nous avons dit au gouvernement de prendre des précautions parce qu'on risquerait d'avoir des inondations, on risquerait d'avoir des boulements de terre, on risquerait d'avoir même mort d'homme. Et nous avons dit à la population de pouvoir tirer l'air caniveau et de prendre les précautions de quitter les lieux inondables et de prendre les dispositions pour ne pas tomber victime de la pluie. Et tout a été averti en avance, c'est depuis le mois, je pense, de mars, on a parlé ça. Mais la population a fait sous-dorée. Et le gouvernement, je ne sais pas de son côté, qu'est-ce qu'il a fait, parce que chacun va tirer sa responsabilité.
Le gouvernement n'a rien fait, c'est ce qu'il faut dire, monsieur Augustin Taguisabo. Le gouvernement n'a rien fait. Parce que ces populations qui habitent des zones inondables, aujourd'hui on a vu les conséquences, des quartiers entiers vidés de leur population, des maisons inondées, il y a eu même mort d'hommes. Ce qui est vraiment triste, alors qu'on pouvait éviter cela.
Effectivement, on devait éviter et en prenant la responsabilité de sensibiliser la population. Il y a l'hôtel de ville qui devait jouer son rôle. Et dans les quartiers mobilisés, avec les chefs de quartier mobilisés, les agents dans les avenues, de pouvoir tirer les caniveaux et de pouvoir libérer leur loyer pour ne pas être inondé à côté des rivières. Parce qu'il y a ceux-là qui sont au bord des rivières, il y a ceux-là qui sont dans les ravins, et ils devaient libérer et ces milliers-là. Ça, c'est la sensibilisation qui devait se faire au niveau de l'hôtel de ville. Et voire même la voirie. Et la voirie aussi devait jouer son rôle de tirer les caniveaux. Donc la Metelsat avait annoncé bel et bien, et les gens n'ont pas...
Aucune mesure n'a été prise.
Aucune mesure n'a été prise au niveau du gouvernement, tout comme au niveau de la population.
Alors ces pluies, nous les aurons jusque quand?
Nous sommes en train de surveiller l'atmosphère par notre observatoire. Selon la prévision saisonnière que nous avons faite, et nous aurons la pluie encore pendant cette période du mois d'avril. Donc, mais il y aura une accalmie ici deux ou trois jours, mais la pluie est encore là. Donc c'est au mois de mai que nous pouvons commencer déjà à aller vers la saison sèche.
Et donc on doit s'attendre à d'autres dégâts.
On doit s'attendre à des pluies. Bon, si il y a une
forte quantité. Quand il y a des fortes pluies à Kinshasa, ça s'accompagne toujours des dégâts.
Madame, vous savez que Kinshasa, même s'il y a une petite pluie, il y a l'eau qui déborde. Et cela est dû à quoi? Je ne sais pas, parce que le sol, normalement, doit absorber l'eau de ruissellement. Le sol est presque isolant pour le moment à cause des déchets en plastique. Et quand il y a même une petite pluie, vous voyez les débordements dans la rue et dans des parcelles. Donc c'est pour dire que les quantités d'eau de pluie qui viendront, nous pouvons les signaler d'un moment à l'autre parce que nous sommes tentés de suivre l'évolution de l'océan Indien. Et quand il y a le réchauffement au niveau de l'océan Indien, il nous amène des masses nuageuses avec des grosses quantités d'eau de pluie qui doit se verser sur les sols. Alors, nous devons nous préparer toujours, être prudents au cas où cette masse nuageuse arrive et se développe sur la ville de Kinshasa. Nous pouvons nous dégager des milliers inondables.
Guy Kiajemba, vous êtes expert en changement climatique, groupe de travail Climat Red Plus Rénové. Alors, votre point de vue ou analyse sur ce que nous vivons aujourd'hui, pas seulement à Kinshasa, mais dans certaines villes de la République, des pluies abondantes qui entraînent des conséquences déplorables quand même, néfastes. Mort d'hommes, inondations, des quartiers qui se vident, des débordements des rivières. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaque fois comme ça, chaque pluie, chaque forte pluie, on déplore toujours des dégâts.
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que mes professeurs ont un peu décontextualisé, puis je vais aller un peu plus loin. En fait, depuis 2009 que nous travaillons, nous alertons le monde entier sur le changement climatique qui est en train de changer. Et ça changera toujours, il ne faut pas voir seulement demain. Et ce n'est pas seulement en RDC. Et le combat que nous devons faire, que nous devons faire, c'est de mobiliser la communauté internationale, les populations et tout le monde pour qu'ils puissent avoir un comportement qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. C'est là le vrai problème. On peut avoir des solutions sectaires, des solutions, disons, localisées, mais c'est une réalité. Et si nous continuons, si les populations et les autres continuent à avoir un comportement comme celui que nous avons aujourd'hui au niveau international, nous n'aurons pas à nous échapper d'ici 2030. Et on prédit déjà qu'on
vous
aura...
Vous parlez de quel comportement?
Les émissions à gaz à effet de serre. Il faut aller là-bas. Il faut faire l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration, donc la séquestration de carbone pour qu'on ait l'équilibre. Parce que c'est ce qui perturbe l'atmosphère. Et cette perturbation nous amène à des changements climatiques. Les risques, c'est quoi? C'est que peut-être nous avons encore la chance un peu, parce que nous avons des forêts. Mais il y a ceux qui sont sous les glaciers des icebergs au niveau de l'Europe qui vont voir ces glaciers se fondre et le niveau de l'océan monter. Et là, ça doit retourner encore sur le continent. Et que donc, il y a un travail à faire. À notre niveau, c'est vrai aussi que nous verrons d'avoir l'information que le taux de déforestation en est en train d'augmenter. Et c'est déplorable. Mais il y a un travail à faire. Si vous voyez tout ce qui se passe, il y a inondation, il y a pluie, c'est différent. Parce que les inondations, en fait, par moment, ça surprend quelqu'un qui est dans sa maison, il n'y a même pas eu de pluie. Ça vient d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu le mois passé. Donc, la différence entre les inondations et la pluie, c'est deux choses. Les inondations, c'est un déversement des eaux qui ont débordé et qui viennent d'ailleurs peut-être souvent. Ça peut venir, ça vient le long du fleuve, c'est ce qui a pris tout le long du fleuve. C'est en Bandakaya, il y a des débordements des eaux, le long du fleuve en Équateur, il y a une bombe partout. c'est à cause c'est effectivement de cette montée des eaux-là. Quels que soient les comportements, les efforts qu'on fera ici au niveau de Kinshasa, si on ne fait pas un effort à un niveau global, on sera surpris par des événements comme ça. Parce que l'inondation, en soi, c'est comme vous êtes dans la maison, il ne pleut pas et l'eau vous rattrape.
Mais là, on parle des pluies.
Oui.
Des pluies qui causent des inondations. Oui, au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher cela?
Nous savons, nous travaillons sur ça pour essayer un peu d'avoir. Et à un moment donné, comme disait Maurice Matan, les experts, il faut s'attendre, se dire qu'on ne pourra pas arrêter à nous-mêmes à notre niveau ce genre d'événement. Il faut une adaptation, une prévention réelle et à temps. Ce que nous voyons chez le collègue de Bethesda, on nous dit ça maintenant, la pluie est déjà là. Si est-ce qu'il y a moyen de le dire pendant que le gouvernement est en train de faire son programme, pour que nous puissions nous dire quel est le budget qu'on va mettre dans ce travail-là, pour que au courant de l'année, on puisse travailler progressivement, que d'agir à contre-temps, parce que maintenant ici, on va subir. Et on est déjà de subir. Et voilà un peu comment nous faisons
la lecture. Donc, quelque part, la Metelsat aussi a une responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui.
Bon, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que peut-être ce sont les ressources, peut-être ils sont incompris, ou peut-être c'est quoi. Comme on disait là-bas, je ne sais pas rentrer dans sa position politique. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas de gouvernement. Vous allez vous adresser à qui? Les gens sont tentés de se battre pour entrer au Sénat, au Parlement, au gouvernement et tout. Qui réfléchit sur la question seulement climatique? Des inondations maintenant ici. À qui s'adresser? Nous, civils, on n'a pas d'interlocuteur maintenant. Tout le monde est en train de partir ou de vouloir rester et il n'y a personne qui s'occupe des problèmes de population en instant ici. Et voilà un peu un travail aussi à faire en amont. Je crois que nous devons continuer à faire la pression pour que nos amis scientifiques dans l'ensemble, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur les eaux et sur le reste, puissent donner des données à long terme qui peuvent permettre à ce qu'un gouvernement responsable, qu'un ministre, puisse, adresser la question et faire une prévision de toute l'année. Comme ça, quelqu'un qui a sa maison peut la détruire, ou qui a une garantie peut prendre des dispositions, ou alors les gens peuvent travailler. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler dans un seul mois ici pour éviter des inondations. Quelqu'un n'a que ça, ou n'a que là où il peut vivre, et vous lui demandez de partir où? Et est-ce que vous avez pris des précautions? Est-ce qu'on a déjà pris des précautions pour trouver des sites qui peuvent accueillir les victimes de ces inondations?
La Metelsat a annoncé cela bien avant les pluies. Hein. Donc le gouvernement devait prendre des dispositions.
Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en annonçant...
Ça veut dire qu'on prend un peu cette question à la légère.
Oui, c'est-à-dire qu'en annonçant, il faut qu'on annonce et que le gouvernement... La Metelsat, c'est un service de l'État. Le gouvernement doit prendre en compte toutes ces informations-là et les transformer en actions concrètes. L'hôtel des villes aussi. Mais ce que nous disons aussi, en même temps aussi, est qu'il faut qu'on se prépare à avoir des problèmes de changement climatique durant tout le temps que nous serons là, tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions, tant que les gens sont toujours dans la concurrence avec les émissions de gaz à effet de serre. Des avions, des véhicules, on en a ici, des milliers de véhicules qui ne sont pas comptabilisés, on ne sait pas, ils émettent combien de CO2, et après, bon, tout ça, ça doit contribuer en fait à la perturbation, même si je ne suis pas scientifique, mon ami de médecin peut m'aider à comprendre ça.
Merci, Monsieur Guy Kajemba. Les auditeurs de Radio Capi ainsi que les internautes sont très nombreux à suivre le débat de ce soir sur Radio Capi. Est-ce qu'on a des auditeurs sur le standard? Voilà, on me signale qu'il y a des auditeurs qui appellent sur le standard. On va se rendre à Beni, au Nord Kivu, pour écouter cet auditeur.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Nos sincères condoléances à toutes les familles des personnes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe. Cependant, nous estimons que tout ceci est dû à une mauvaise planification de l'espace d'habitation du pays, au point qu'on se demande même si les services d'urbanisation existent encore dans ce pays. Donc nous pensons que le gouvernement devrait s'activer en mettant en place une politique pouvant permettre de faire face à ces catastrophes naturelles que subissent notre capitale, en revisitant les plans d'urbanisation du pays pour mieux faire face aux problèmes climatologiques dont fait face le pays presque dans tous les coins.
Maurice Matanda, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Fabrice qui nous a appelé depuis la ville de Béni?
Bon, il a raison, madame, lorsqu'il dit que il y a une mauvaise planification de l'espace. Effectivement, nous avons un problème sérieux de la planification parce que prenons l'exemple de l'aménagement du territoire. C'est seulement pendant ces dernières années, dans les cinq dernières années, qu'on a un ministère de l'aménagement du territoire. On avait bien sûr un service, une direction attachée généralement au niveau de l'urbanisme, habitat, mais qui n'était pas vraiment en train de jouer son rôle. Mais c'est maintenant, avec nos collègues de l'aménagement du territoire, ont fait la politique de l'aménagement du territoire. Après ça, ils ont fait la loi sur l'aménagement du territoire. Maintenant, ils sont en train de travailler sur le schéma national d'aménagement du territoire, SNAT, où nous sommes, tous les sectoriels, utilisateurs d'espace, sont tenus d'envoyer les données pour que l'aménagement du territoire fasse des arbitrages. Bon, c'est je ne peux pas nier, nous avons un problème très sérieux de planification, et je pense qu'avec l'arrivée du schéma d'aménagement du territoire, avec les plans, parce que quand on aura fini avec les plans, les schémas national, on va faire les plans provinciaux d'aménagement, et on pourra aussi faire des plans locaux. Et là, vous retrouvez des plans d'urbanisme où je pense qu'avec la loi sur l'aménagement du territoire, nous allons commencer à respecter les consignes. Parce qu'il ne faut pas seulement dire l'État n'a pas. Mais la personne qui occupe un mauvais espace là, lui-même ne peut pas se dire qu'il est en danger, il faut nécessairement que quelqu'un vienne lui dire qu'il ne faut pas ici, il faut, avec des matraques pour quitter. Non. Donc c'était, comme je l'ai dit, nous devons, nous tous, au niveau de l'État et au niveau de la population surtout, essayer de cultiver une certaine conscience. Parce que vous allez voir, madame, par exemple, pour des questions ici, il y a des gens, quand je passe sur la rue, « Qu'est-ce que l'environnement ?»« Qu'est-ce que l'environnement ?» À un moment donné, je dis, « Mais qu'est-ce que l'environnement peut faire sans moyen ?» Et examinez, vous allez voir, demandez aux auditeurs, quand on va examiner les budgets au Parlement, bon, ce n'est pas encore parce que ça c'est le premier Parlement, c'est le nouveau Parlement, nous ne savons pas quel est le comportement qu'ils vont afficher, mais nous devons avoir des réserves sur ça. Mais tous les autres législatures, qu'est-ce qui s'est passé? Au budget de l'environnement, on dit, ah, l'environnement a beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent qui viennent d'où? La communauté internationale. Mais la communauté internationale, partout dans le monde, accompagne, appuie le gouvernement dans ses activités. Le gouvernement ne peut pas lui laisser toute la charge. Donc, quand par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, ils disent, non, l'environnement a beaucoup d'argent. Mais madame, pour curer les caniveaux, vous voyez, on va dire, il fallait sensibiliser. Non. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les gens balayent leurs parcelles? Vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui font des efforts de curer les caniveaux? Et on en fait quoi? Ça reste là-bas au-dessus. Quand la pluie tombe, ça répare. Maintenant, on a changé la législature. Est-ce que les personnes qui sont venues maintenant sont capables de suivre les travaux ou de les financer? Parce qu'il ne suffit pas soit de financer. Mais il faut suivre. Il ne suffit pas de suivre. Il faut sanctionner lorsqu'on trouve des erreurs. Donc, madame, il y a beaucoup à dire. Je ne voudrais pas abuser du temps de vous.
Merci, Maurice Matanda. Oui. Marcel Makanda, qui nous écrit depuis Lubumbashi, pense que les problèmes des inondations en RDC, la responsabilité incombe à l'État congolais, car ce dernier n'a aucune politique d'urbanisation. Les gens construisent n'importe où, et même sur des terrains marécageux, sans être inquiétés. Il est temps que le gouvernement se réveille de son profond sommeil pour détruire toutes les constructions anarchiques. Junior Kiyumbi pense que le problème, c'est aussi les ingénieurs qui ne s'adaptent pas à la bonne construction de caniveau. Jano Matambo, depuis Moba, nous déplorons tous la montée des eaux, partout en RDC, qui a déjà fait un impact négatif à l'économie des citoyens congolais. Cependant, les responsabilités de l'État congolais en matière d'urbanisme et habitat pour le respect des consignes. Ici à Moba, nous avons déjà perdu notre port qui est très important pour l'économie de la cité. Après Beni, on va aller dans la province de la Tchopo, à Ubundu précisément, pour écouter cet autre auditeur.
Moi, c'est Ignace Fumba d'Ubundu dans la province de la Tchopo. La lecture est simplement inexplicable vu les dégâts causés par les pluies que certaines de nos villes subissent. Pour limiter ces conséquences, que chacun de nous au milieu où il habite prenne des mesures de prévoyance pour éviter les dangers afin des pluies. Aux autorités, surtout les maires de nos villes, d'ordonner aux bourgmestres et aux bourgmestres à leur tour d'ordonner les chefs de quartier et aux chefs de quartier d'ordonner aux chefs d'avenue de pratiquer un système de salon chaque samedi en débouchant les caniveaux et arranger les rues de chaque avenue pour anticiper les dégâts que les pluies pourront nous causer.
Augustin Tagisabo, l'idée ou la proposition de Ignace Ofumba peut-elle ou pourrait-elle limiter les dégâts?
Effectivement, l'auditeur a raison et je l'encourage à ce qu'il a dit. Et c'est pour minimiser les dégâts. Mais ici, les dégâts, nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait des dégâts. Nous devons anticiper les dégâts. Parce que quand les dégâts arrivent, ça va demander les dépenses. Et ces dépenses-là, ça sera énorme par rapport à la prévention. Or, cet argent qui devait être alloué dans les dépenses devait renforcer au contraire les scientifiques tels que nous sommes en équipement, par exemple, pour la surveillance des temps, en équipement pour la surveillance de l'atmosphère et même des gaz, comme a dit mon collègue. Et donc les scientifiques ont besoin des renforcements des équipements en observation.
Vous n'êtes pas bien équipé pour bien faire votre travail.
Aussi, la RDC est tellement vaste. Parce que vous avez parlé de tous les coins du pays. Or, les équipements sont limités et il n'y a pas même les fonds alloués aux scientifiques pour renforcer tous les équipements dans tous les coins du pays. Pour suivre, par exemple, une situation qui se passe à Calais, par exemple. Une situation qui se passe à Ouvira. Donc, partout là où il y a les dangers, les catastrophes naturelles, il faut les équipements de surveillance. Et ces équipements de surveillance doivent renforcer l'observatoire et donner même les préventions en avance pour que ces peuples puissent prendre leurs dispositions.
Junior Kiyumbi, depuis Kolwezi, l'État congolais doit disposer d'un budget environnemental. Ce dernier doit passer par des formations de sensibilisation. Autre chose, le cadastre est responsable car ils vendent des terrains sans tenir compte de l'urbanisme. Jado Iglima Bukiavu. Voilà, au sud Kivu, la population a une part de responsabilité dans ces inondations lorsque, au lieu de s'appuyer aux associations qui gèrent les déchets ménagers, elle préfère les jeter dans les caniveaux. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle de Kolwezi dans la province du Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Les catastrophes naturelles sont inhérentes aux humains. Mais c'est à ces derniers de mieux s'organiser pour se mettre à l'abri et anticiper les événements. Mais en RDC, le service qui doit alerter tout le monde travaille à la traditionnelle. Il est moins équipé, il n'a pas de moyens, il a un personnel moins qualifié et qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Et c'est ça même l'image de plusieurs leviers de l'État congolais aujourd'hui. Je pense que pour limiter les conséquences de ces pluies, Plusieurs services étatiques doivent être impliqués, notamment les services de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, mais également sensibiliser la population congolaise qui n'a plus de notion de propriété et qui jette tout partout, sous l'impuissance de l'autorité.
Guy Kajimba.
Merci beaucoup. Je crois qu'il a, il a bien dit. Mais moi, je suis en train de penser aussi que il y a vraiment on parle de pluie, mais il y a des fortes températures. On n'a pas identifié les conséquences de ces températures-là. Quand vous vous retrouvez dans une ville comme Kinshasa, vous êtes à 36 degrés, il n'y a pas de courant, il n'y a pas moyen de faire fonctionner un ventilateur. Donc, il n'y aura pas seulement que les pluies vont s'arrêter, il y aura autre chose, il y a des perturbations climatiques, il y a des
érosions. Mais là, on parle des pluies. Hein.
Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que, en même temps aussi, ce que nous avons vu ailleurs, c'est que il y a des mécanismes d'adaptation. Au Japon, ils ont construit sous l'eau. Ça ne pose pas un problème si les gens sont sérieux, on fait la planification à temps. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans une situation où les maisons sociales, par exemple, les besoins sociaux peuvent permettre à ces questions de, que quand vous n'avez pas où rester, vous avez construit votre maison avec un document de cadastre que vous n'avez pas prévu, vous n'êtes pas dur pour savoir que dans 20 ans, parce que vous arrivez quelque part, il y a des gens qui ont fait 10 ans là-bas. Ils sont surpris aujourd'hui par l'eau. Ils sont surpris après 10 ans. Alors, la solution, c'est qu'il faut aussi en même temps qu'on puisse réfléchir sur des sites qu'on doit aménager. Au lieu de commencer à construire des immeubles dans la ville ici qui ne vont servir à rien, qu'on voit si on peut avoir 200 ou 300 maisons quelque part dans, ailleurs.
Avoir une nouvelle ville, délocaliser la ville,
une cité pour
étendre la ville.
Une cité pour étendre la ville et pour encourager ceux qui ont des problèmes, qui se retrouvent dans cette situation-là, de trouver des alternatives. Parce qu'il ne faut pas. Quelqu'un va dire, mais moi, ça fait 30 ans que j'ai travaillé pour avoir cette maison, et puis on me demande moi de partir, je vais aller où? Je suis maintenant, c'est pas moi, retraité, ou bien je suis agent de l'État, je n'ai que $100 par mois, vous voulez que j'aille où? Et après, il dit, bon, je vais mourir dans ma maison. Donc, il faut vraiment un travail sérieux. C'est vrai que nous aussi, en même temps, comme Maurice a dit, nous avons un problème de réforme. Hein, nous n'avons pas le système d'information sur le foncier, le système de notre territoire, les alertes précoces à tous les niveaux. C'est tout ça qu'on doit développer pour que les informations soient, que déjà aient des informations fluides. Mais voyez-vous, vous êtes sur le fleuve, sur le site des fleuves, des maisons et des millions de dollars qui ont été mis à contribution. Mais c'est comment est-ce qu'on a pensé qu'on peut construire sur les lits de fleuve? Et ces maisons-là, ils ont coûté cher aux gens. Et voilà, donc je crois qu'il y a un problème de gouvernance, un peu de réflexion à faire, des états généraux à faire pour la gestion des inondations de saison. Mm-hmm. Ça, c'est ce que nous allons proposer au nouveau au gouvernement qui va venir, pour qu'on puisse faire des états généraux pour réfléchir sur les stratégies et les actions à mener pour que nous puissions, disons, prévenir. Et en même temps aussi s'adapter. Parce que comme je disais au début, nous sommes dans une situation où le changement climatique est inhérent à l'humanité aujourd'hui. Et que donc nous aurons des variations qui sont des perturbations difficiles à contrôler et que nous devons travailler beaucoup aussi sur l'adaptation. Voilà.
Augustin Tagui Sabo, Guy Kajemba a parlé des alertes précoces. C'est rarement que vous faites ce genre d'alerte. C'est qu'est-ce qui vous manque pour les faire? C'est les moyens qui vous manquent? C'est quoi?
Bon, nous faisons la pression du temps et nous faisons la partie alerte. Mais c'est lui qui est chargé de l'alerte au grand public et normalement c'est la protection civile. La protection civile doit jouer son rôle aussi à...
Elle existe en RDC?
Oui, il y a la protection civile qui existe. Et je pense que c'est dans le ministère de l'Environnement où c'est là où il se trouve. Et nous les avons même donné certains équipements pour faire les alertes. Mais nous devons développer ces systèmes d'alerte précoce. Nous avons les CAP qui donnent toujours des formations. Nous devons entrer dans cette logique des CAP pour faire les alertes même aux petits agriculteurs, même aux petits peuples qui se trouvent dans le coin du pays. Nous, au niveau d'un médecin, nous nous limitons à informer les publics qui nous suivent et les médias, pour que les médias aussi élargissent cette information à qui les droits. Il y a certaines autorités aussi qui reçoivent. Mais le système d'alerte est tellement primordial pour la Métersat et certains domaines connexes tels que la protection civile et les autres.
Alors, vous avez annoncé qu'il y a des pluies hein, qui vont encore arriver au courant du mois d'avril. Concrètement, pour sauver des vies. Hein.
Pour sauver des vies.
Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Qu'est-ce que la population de tous côtés doit faire? Ce sera votre conclusion.
Bon, avant de conclure, je voulais donner d'abord les quantités d'eau de pluie que nous avons recueillies à Kinshasa, Mbinza. Nous avons eu 132 mm pendant les 9 premiers jours du mois d'avril. 132 mm.
Nous avons... Et la moyenne est de combien normalement?
Ça, c'est la quantité que nous avons requis pendant les 9 premières.
D'accord.
La moyenne, on va le faire à la fin du mois.
Ok.
Lorsqu'on aura la totalité. En Gilles, nous avons 150 mm. Et Ndolo, c'était 67 mm. Mais à Kananga, nous avons 115 mm d'eau. Et à Goma, nous avons 51 mm. Ça, c'est les 9 premiers jours du mois d'avril, le mois de la saison. De ça, tenu compte des autres mois qui sont passés, mois de mars, il y a Kalemi qui a marqué avec 147 mm d'eau. Et vous avez attendu à Kalemi, il y a la montée de l'âge Tanganyika. Et cela crée aussi des problèmes. Donc... Et si vous pouvez répondre à votre question.
Alors, je disais, vous avez annoncé qu'il y aura encore beaucoup de pluie hein, au mois d'avril. Concrètement, hein, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour nous éviter encore des morts? Et qu'est-ce que la population de son côté doit faire?
Bon, nous avons annoncé et nous sommes pendant la saison. Et pendant la saison, nous ne savons pas l'intensité de la pluie qui nous viendra. Mais dans la prévision, nous avons... déjà les indices qui nous montrent qu'il y aura des précipitations qui viendront. On ne sait pas, ça peut être demain ou après-demain, mais dans ces mois d'avril, nous devons nous attendre à certaines pluies. Donc vers la fin, peut-être mi-mai, là, il y aura douceur, il y aura ralentissement des pluies, et jusqu'à aller jusqu'à la saison sèche, qui va commencer au mois de juin, juillet, août, là, il y aura... la déficit des pluies. Les gouvernements doivent prendre sa responsabilité toujours, comme je l'ai dit, parce qu'il a beaucoup de branches qu'il peut utiliser pour sensibiliser les personnes, pour mettre les enjeux en marche, pour mettre même les personnels qui peuvent travailler afin de pouvoir libérer les passages d'eau. Libérer les passages d'eau, parce que c'est ça qui est important. Pour la vie de Kinshasa, moi je parle, parce qu'il y a trop de bouchages des caniveaux. Là, vraiment, si vous circulez toute la ville de Kinshasa, il n'y a pas un travail qui se fait dans ce sens-là. Donc, la population d'éviter de jeter les déchets dans les caniveaux et de pouvoir libérer les lieux où ils sont victimes, ils sont vulnérables dans les inondations. Parce qu'il faut observer encore ce mois. Si les dégâts arrivent, le gouvernement, je ne sais pas, il va faire quoi? L'auditeur et mon confrère a dit qu'on n'a pas un gouvernement jusque-là. Et nous attendons tous les nouveaux gouvernements. Mais quand même, l'administration fonctionne.
Fonctionne, oui.
Oui, donc...
Alors, Maurice Matanda, vous êtes directeur des inventaires et aménagements forestiers au ministère de l'Environnement du gouvernement central. Vous êtes en quelque sorte membre du gouvernement. Alors, il faut sauver la population. Il y a encore des pluies qui arrivent. Qu'est-ce qui devrait se faire, selon vous?
Oui, je voulais d'abord apporter une précision quand notre collègue a dit que c'est la protection civile se trouve à l'environnement. Non, la protection civile se trouve au ministère de l'Intérieur. C'est eux qui président la commission de gestion des catastrophes. Vous voyez, même si les histoires d'armes ou de sécurité ou de quoi, c'est le ministère de l'Intérieur. Bon, maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Ce principe doit être des mises pour tout le monde, population comme État. Nous tous, nous devons savoir que guérir coûte cher et prévenir peut coûter moins cher. Avec certaines dispositions d'entretien que nous pouvons faire, nous pouvons éviter beaucoup de dégâts. Maintenant, quand on se pose la question, tout ceci arrive sur tout l'ensemble de notre pays. Je ne voudrais pas parler de ce qui se passe dans d'autres pays parce que sinon, nous n'aurons pas à trouver nos propres solutions. Nous allons dire communauté internationale et puis ça se limite là. Donc ça veut dire, dans notre pays, si nous voulons avoir un environnement nouveau, un bon environnement qui fait beau vivre, nous devons faire ce que nous n'avons pas encore fait, chacun. Si nous continuons avec nos habitudes, ne nous attendons pas à ce que l'environnement soit assaini automatiquement ou bien avec des prières, ou bien... Non, nous devons travailler. C'est le travail qui donne un environnement sain et pour que le corps soit sain. Donc, avec
changer de mentalité.
Nous avons dit que c'est... Pardon?
Il faut changer de mentalité.
Absolument, ma chère. Ça veut dire faire ce que nous n'avons pas encore fait. Chacun de nous. Quand il vit chaque matin, chaque jour, ce qu'il a toujours fait pour l'environnement, là, qu'il cesse, qu'il fasse autre chose. Ça veut dire que nous apprenions à gérer nos déchets, pas les jeter n'importe où. Parce que quand nous jetons là, nous devons d'abord nous demander ça part où. Là, on ne se pose pas la question. On ne fait que jeter, et ça bloque des caniveaux, ça bloque des voies de passage d'eau, comme on venait tout à l'heure de le dire, et ça nous remonte. Et quand ça nous remonte, nous commençons à penser aux sorciers, nous pensons, non, c'est nous-mêmes qui sommes sorciers.
Merci, Maurice.
Donc, changeons de comportement, changeons d'attitude et nous verrons la suite.
Merci, Maurice Matanda. Kaikai Kabasile, depuis Kananga, au Kasaï central, la limitation des dégâts causés par les pluies diluviennes en RDC nécessite une bonne politique nationale en matière urbanistique, des moyens importants et des hommes éthiques, sinon les pires sera une réalité. Guy Kajemba, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que, comme on dit, je crois qu'il faut vraiment que nous puissions avoir une logistique importante. Il ne faut pas dire que les gens, nous sommes dans une situation où on doit curer les carrefours. On ne doit pas se complaire à acheter des engins, des véhicules, des milliers de véhicules à distribuer aux gens pour venir juste remplir la ville et créer les embouteillages. Si on a des engins pour curer les grands, pour le moment, quoi, c'est une urgence. Et nous avons au moins l'OBD et partout en RDC. Et si vraiment il est pris en charge pour qu'il puisse travailler rapidement, pour que nous puissions évacuer comme le. D'abord les grandes artères, les grandes rivières, qu'on puisse les curer, qu'on puisse enlever ces déchets. Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez qu'il y a des déchets qui ont bloqué les ponts, qui sont sous le pont est bloqué et l'eau stagne, ça sort. Et que donc je crois qu'en urgence maintenant ici, il faut mobiliser ces services-là, tous ces services à l'aide précoce, le génie avec l'OVD pour qu'ils puissent avoir suffisamment de moyens de logistique et de camions pour essayer un peu d'évacuer d'abord, de vider d'abord ces grands caniveaux pour que l'eau puisse circuler normalement.
Merci beaucoup Guy Kajimba. Merci également à Valérie Monchoubousa Gilbert qui nous suit depuis la ville de Bukavu où il pleut abondamment en ce moment. Merci à toute la grande équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Dona Madimba, Mimi Kindou, Jonathan Falani, Clément Chipanga, Hervé Vokia, et l'équipe El Mundo a supervisé ce magazine, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.